Radio Classique. Et votre journée devient plus belle.
Bienvenue sur Radio Classique, il est 8h.
La matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand.
Voilà, je profite de ce retour pour vous remercier du soutien que vous apportez à cette matinale de semaine et de mois. Alors moi, c'est Frédéric Valtoux qui est le maire de Fontainebleau mais qui est aussi président de la Fédération Hospitalière de France qui sera l'invité politique de la matinale avec Luc Ferry. Nous parlerons de tous les sujets de l'actualité. Et Dieu sait qu'il n'en manque pas. À la une, comment la France prépare l'arrivée du vaccin ? On vient d'esquisser le sujet avec Dimitri. Un groupe d'experts y travaille d'arrache-pied. Qui sont-ils ? Que prévoient-ils ? Il ne va pas falloir rater cette opération qui est fondamentale pour le pays et pour son économie. Sommes-nous prêts ? Réponse dans un instant avec Lucille et la rédaction. Comment fêter Noël ? Alors c'est un peu le paradoxe, sans risquer une troisième vague. Tous nos voisins européens vivent le même dilemme. L'Italie, par exemple, se prépare à alléger son confinement. Et depuis le procès de l'ancien président Nicolas Sarkozy, qui sera face au juge cet après-midi dans l'affaire des écoutes pour corruption et trafic d'influence. Voilà pour le programme, il est 8h01. Nous sommes avec Lucille Bréau.
Radio Classique.
Le vaccin sera-t-il au pied du sapin ? Ce n'est plus tout à fait un rêve.
Et c'est même une réalité, Guillaume, aux États-Unis. Les premières vaccinations sont attendues avant la mi-décembre. Là-bas, au même moment, les premières doses arriveront seulement en Europe. Les labos accélèrent leur production, les États peaufinent leur stratégie vaccinale. Alors la France, dans ce sprint mondial, est-elle prête pour tout mettre en musique ? Un vrai commando interministériel de plusieurs dizaines de personnes travaille actuellement d'arrache-pied, Rémi Pfister.
Cette task force vaccin semble hantée par le désastre de la campagne de vaccination contre la grippe H1N1 en 2009. Fini les immenses centres réquisitionnés et les aides-soignants embauchés à la va-vite pour faire les injections. L'idée, ce serait désormais que toute la chaîne de la médecine de ville travaille main dans la main. Les doses arriveraient des super congélateurs directement dans les pharmacies de quartier. Ils pourraient y être stockés de 5 à 30 jours selon les vaccins. De là, les généralistes et les infirmières libérales pourraient venir s'approvisionner au compte-gouttes. Mais pour ça, il faudra une communication, une coordination parfaite entre tous ces acteurs pour ne pas avoir de problème de stock. Parmi les médecins, il se murmure qu'une plateforme dédiée pourrait se mettre en place. Enfin, qui vacciner en premier ? Ce commando interministériel semble vouloir calquer en tout point ce qui est déjà fait avec la grippe et qui a très bien fonctionné cette année. Place d'abord donc à ceux qui recevront un bon de l'assurance maladie, les soignants, les personnes de plus de 65 ans et ceux qui présentent des facteurs de comorbidité.
L'Union européenne, elle aura signé 6 contrats d'approvisionnement d'ici la fin du mois. 15% des doses seront destinées à la France, peut-être à de meilleurs prix que les Américains, promet Agnès Pannier-Runacher, la ministre déléguée à l'industrie dans les Échos ce matin. Rebelote à Joinville-le-Pont, une semaine après une fête clandestine qui avait rassemblé 300 à 400 personnes en plein confinement. Le même pavillon a accueilli une autre soirée. Hier, la police a dû intervenir. 16 personnes ont été verbalisées. Elles participaient à un anniversaire.
Que va-t-il se passer exactement ? Que va-t-il dire ? Emmanuel Macron s'adressera demain à 20h aux Français, c'est-à-dire à nous.
Alors que la décrue se confirme, le nombre de malades du Covid en réanimation baisse pour le 6e jour de suite. Un peu plus de 13 000 nouveaux cas ont encore été identifiés hier contre 17 000 la veille, 23 000 vendredi. Emmanuel Macron qui prépare un allègement du confinement en 3 étapes. La première d'ici au 1er décembre, c'est la réouverture des commerces avec un protocole sanitaire renforcé. Alors comment fêter Noël sans risquer une troisième vague ? Eh bien, tous nos voisins européens vivent ce même dilemme. L'Italie, par exemple, se prépare à alléger son confinement pour relancer son économie. Victoire Fort.
Un impératif, apprendre du passé. Matteo Bassetti est infectiologue à Gênes. On ne doit pas commettre les mêmes erreurs que cet été. Si on ouvre le pays pour Noël, il faut que ce soit sous conditions. Les Italiens attendent le 3 décembre. Le pays devrait alors passer à un seul et même régime sur tout le territoire, celui de la zone dite jaune, comme à Rome, où habite Cécile.
Ça permettrait de réouvrir les commerces dans toutes les régions. Il n'y a que les bars et les restaurants qui sont contraints de fermer à 18h, avec ensuite seulement un service à emporter.
Des boutiques ouvertes jusqu'à 22h pour fluidifier les allées et venues, un couvre-feu et toujours un enseignement à distance à partir de la 4e. La grosse interrogation reste toujours celle des déplacements entre les régions. Renato habite dans le Piémont, zone rouge.
Je crois qu'ils feront quelque chose pour permettre à les personnes de se rencontrer pour Noël, mais en faisant beaucoup d'attention pour limiter les contacts.
Pour éviter un regain des contaminations, ce plan ne devrait s'appliquer que quelques semaines. À partir du 24 décembre et jusqu'au 7 janvier, l'Italie devrait à nouveau opter pour un confinement strict et national.
Victoire fort et au sommet de l'État, derniers arbitrages avant la prise de parole présidentielle. Jean Castex consulte à tout va aujourd'hui. Les professionnels et les élus des stations de ski, très inquiets pour leur saison, seront reçus à 11h. Avant cela, le Premier ministre s'entretiendra avec une dizaine de maires qui plaideront la cause des quartiers prioritaires. Il demande qu'1% du plan de relance soit accordé aux quartiers défavorisés.
Il faut dire, Lucille, vous le savez, que l'une des surprises de ces derniers temps, c'est que des clusters importants ont été déclenchés en Savoie et en Jura. Et même d'ailleurs en Suisse, donc les régions où il y a les stations de ski, on ne s'y attendait absolument pas. Trop d'écran, pas assez de sport. Nos ados, eux, ne bougent pas assez.
Des ados trop sédentaires et qui mettent en danger leur santé. Deux tiers des 6-17 ans présentent même un risque préoccupant. C'est ce que révèle une vaste enquête de l'Agence nationale de sécurité sanitaire rendue publique aujourd'hui. Elle a été menée entre 2014 et 2015. Augustin Lefebvre, c'était bien avant les deux confinements et c'est encore plus inquiétant.
Oui, car rester à la maison, c'est exactement le contraire de ce qu'il faut faire et les chiffres actuels sont sans doute encore plus alarmants. D'après l'étude, les deux tiers des ados passent 2 heures par jour devant un écran et font moins d'une heure d'activité physique. La moitié est même à un niveau de risque très élevé avec pas de sport du tout et plus de 4h30 sur un téléphone, un ordinateur ou devant la télé. La tendance est plus marquée dans les familles défavorisées et chez les filles. Cette sédentarité est une bombe sanitaire à retardement. Elle entraîne surpoids et obésité, manque de sommeil et moins bonnes conditions physiques et donc des risques de cancer, diabète, dépression ou maladies cardiovasculaires. Pour y remédier, pas besoin de courir un marathon, des gestes simples suffisent. S'étirer, monter les escaliers, marcher, ça concerne nos adolescents mais aussi les parents, à eux de montrer l'exemple.
À nous tous de montrer l'exemple, donc merci Augustin Lefebvre. Une campagne de dépistage du Covid commence par ailleurs aujourd'hui dans une trentaine de lycées pilotes d'Île-de-France à base de tests antigéniques pour les personnels et les élèves qu'ils souhaitent. Elle va durer plusieurs semaines.
Nicolas Sarkozy lui a rendez-vous, vous le savez, depuis le début de cette matinale au tribunal aujourd'hui.
Dans l'affaire dite des écoutes, c'est seulement la deuxième fois en France qu'un ancien président est renvoyé en correctionnel après Jacques Chirac en 2011 dans l'affaire des emplois fictifs de la mairie de Paris. Nicolas Sarkozy poursuivi pour corruption active et trafic d'influence avec son avocat et un ancien haut magistrat. Retour sur cette affaire avec Rémi Vallès.
L'affaire remonte à fin 2013. Les juges décident de mettre sur écoute l'ancien président de la République dans le cadre d'une enquête sur un possible financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Il découvre alors qu'il utilise un autre téléphone portable pour communiquer avec Thierry Herzog, son avocat, sous l'alias de Paul Bismuth. Dans leurs échanges, il est souvent question d'un certain Gilbert Azibert, avocat général près la Cour de cassation. La justice soupçonne alors Nicolas Sarkozy et son avocat de tenter d'obtenir de sa part des informations confidentielles sur une procédure lancée par l'ex-président en marge de l'affaire Bettencourt, le tout en échange d'un poste doré à Monaco. Pour les juges, même s'il n'y a pas de preuves directes, le pacte de corruption entre les trois hommes ne fait pas de doute. Et dans son réquisitoire, le parquet national financier avait parlé de manœuvres de la part de Nicolas Sarkozy comparables à celles d'un délinquant chevronné. Dans cette affaire, l'ancien président risque 10 ans de prison et 1 million d'euros d'amende.
Rémi Vallès, et puis on termine avec la bonne nouvelle du jour. Guillaume, 3 Français sont en tête du Vendée Globe. Thomas Ruyant, Charles d'Alain. Et un peu plus loin derrière, le doyen Jean Le Cam. Alex Thompson lui est quatrième. Il a un problème avec une poutre à l'avant de son monocoque. Il est obligé de réparer.
Voilà, dans la tempête, dans les vagues de plus de 6 mètres de haut, est toujours
très
invraisemblable de penser qu'un homme seul sur un bateau qui fait une vingtaine de mètres de long arrive à réparer des choses que nous serions bien incapables de faire. Je voudrais qu'on écoute en son ce qui se passe sur le plan politique avant d'ouvrir la page politique de cette matinale. Le 13 novembre dernier, vous vous souvenez que Nicolas Sarkozy s'était exprimé face à Routel Krieff sur BFM TV à propos du procès notamment qui s'ouvre cet après-midi. Voici ce qu'il avait dit.
Je sais maintenant qu'il ne suffit pas d'être innocent pour ne pas avoir d'ennui. Je suis simplement combatif. Je n'ai pas l'intention qu'on me reproche des choses que je n'ai pas commises. Qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas, j'ai beaucoup de défauts et sans doute ai-je fait beaucoup d'erreurs. Je ne suis pas un pourri. Et ce qui m'est infligé est un scandale, madame, qui restera dans les annales. La vérité finit toujours par triompher.
Et dans un registre totalement différent du climat politique, nous sommes encore en France ce week-end au Trocadéro, qui est quand même un quartier bourgeois relativement tranquille. On parle d'un président, vous le savez, qui va passer devant les tribunaux, un premier ministre, l'ancien premier ministre a été perquisitionné, tout le monde s'exprime à la radio, à la télévision, mais il y a quand même un certain nombre de Français qui considèrent qu'ils vivent dans une dictature. Les voici. Voilà, si la France ressemble à une dictature, je suis Cyrano de Bergerac. Autre question qui va être débattue dans un instant, donc avec notre camarade Guillaume Tabar, c'est la situation à l'intérieur de la mairie de Paris, où il y a du tirage et un tirage considérable entre les Verts et Anne Hidalgo, qui s'exprimait elle aussi ce week-end.
J'ai souvent cette discussion avec eux et je leur dis, moi j'ai un problème, c'est votre rapport à la République. Ce problème de rapport à la République, il doit être clarifié. Il y a du travail à faire chez eux pour être beaucoup plus au clair. À nous de les faire progresser sur les questions, notamment de République.
Voilà, ce problème avec la République, le moins qu'on puisse dire, c'est que pendant la campagne électorale, elle n'avait pas vraiment clarifié. 8h10, vous êtes sur l'antenne de Radio Classique. Nous avons rendez-vous avec Guillaume.